Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Christian Page, pour commencer, j'ai parlé tout à l'heure, on a fait référence aux démons de Dover. Oui. Débutons avec eux, justement, ces démons de...
Le démon de Dover.
Il n'y en a pas plusieurs.
Non, en fait, c'est assez curieux parce que tu vas voir, c'est une histoire qui est relativement anecdotique. Et on ne se serait pas attendu à ce qu'elle ait un impact aussi grand dans l'univers des phénomènes étranges. On est le 21 avril 1977. Donc, on est en milieu de soirée. Il y a des adolescents, en fait, trois adolescents qui se baladent à bord d'une Volkswagen qui appartient à un type qui s'appelle William Bartlett. Bartlett a 17 ans. Il est accompagné de deux jeunes hommes avec lui, deux adolescents qui sont dans la voiture. Et les jeunes vont admettre ultérieurement qu'ils ont consommé un peu de marijuana ce soir-là. Alors qu'il roule, il est à peu près 22h30 et au moment où Bartlett engage, et ça se passe à Dover. Dover, pour te le situer, on est à peu près à une heure de Boston. On se trouve au Massachusetts. C'est une communauté plutôt huppée, classe moyenne.
Ouais.
Et bon, tu vois, c'est un beau petit village, la Nouvelle-Angleterre, assez huppée. Donc,
c'est à l'ouest de l'autoroute 95.
Voilà.
Les gens connaissent bien.
Et donc, les jeunes, alors que Bartlett se trouve un peu à la sortie de la ville, il fait un virage avec sa voiture, une Volkswagen Coccinelle, et ces phares vont éclairer un muret de pierre sur lequel, pendant quelques secondes à peine, il voit une créature, du moins c'est ce qu'il va raconter par la suite, il voit une espèce de créature humanoïde qui ressemble un peu, les gens sont probablement familiers avec le Seigneur des Anneaux, le personnage de Gollum, hein? Mm-hmm. Créature un peu chétive avec un corps presque visqueux qui donne l'impression un peu... Une tête en forme de melon. Bartlett n'y voit pas de nez ni de bouche, simplement de gros yeux globuleux et lumineux. Et ce qui le frappe, ce sont les mains et les pieds de cette créature dont les doigts et les orteils sont démesurés et semblent littéralement tenir prisonnières les pierres du muret sur laquelle la créature se trouve. Alors, le temps de voir la créature, Bartlett s'exclame, demande à ses compagnons, vous avez vu ça? Et là, il met les freins, les jeunes reculent en voiture, mais la créature déjà a disparu. Alors, Bartlett rentre chez lui. Ses compagnons l'accompagnent. Ils vont témoigner devant les parents de Bartlett parce que Bartlett est visiblement étonné, presque choqué par l'apparition et il va faire un dessin de la créature à ses parents. Alors que tout ça se passe dans une petite maison de Dover, à l'autre extrémité de la ville, un autre jeune rentre chez lui, un dénommé John Baxter. Il a 15 ans, il a passé la soirée chez des amis et alors qu'il rentre chez lui, il marche sur une petite route secondaire, une route rurale entourée d'arbres, et voilà qu'il voit une ombre qui marche dans sa direction. Alors Baxter s'exclame, il croit que c'est un collègue de classe, un jeune qu'il connaît, qu'il reconnaît, il dit « Hey John, c'est toi ?» Et au moment où il dit ça, il voit ce personnage, cette ombre, traverser le fossé et s'enfoncer dans la forêt. Alors John Baxter, et là c'est un peu quand même surprenant, ce Baxter se lance à la poursuite de la créature et ils vont faire quelques pas dans la forêt et là il va s'arrêter net parce que la créature elle aussi s'est arrêtée. Elle se tient debout aux côtés d'un arbre et ce que Baxter voit malgré l'obscurité, il voit la créature, ses grands doigts qui entourent un petit arbre qui se tient debout et il va la décrire exactement comme celle observée par Bartlett, donc une créature humanoïde, une tête en forme de melon avec de gros yeux lumineux. Il va entrer chez lui, raconter ça à sa mère, va faire également un dessin. 24 heures plus tard, deux autres jeunes de Dover, un type qui s'appelle Will Tainter et une jeune fille, Abby Brown,
ouais.
Alors qu'ils rentrent, ils quittent Dover, en fait, ils ont passé la journée à Dover, ils quittent pour se rendre dans la ville voisine. Et au moment où ils sortent de la ville, ils vont voir cette petite créature qui semble courir le long de la route, dans le gravier, le long de la route. Et au moment où Abby Brown le voit, elle s'écrie à G, elle dit à Tainter, tu le vois? Et à ce moment-là, la créature entre dans les fourrés et elle disparaît. Il n'y aura jamais d'autre observation de cette créature. Quelques semaines après, Bill Bartlett va parler de la créature à son professeur de sciences en disant « c'est curieux ce que l'on a vu ». Et un petit journal local va s'emparer de la nouvelle. C'est le journal local qui va d'ailleurs baptiser la créature le démon de Dover. En fait, absolument aucune référence au démon là-dedans. Simplement une petite créature qui ressemble au Gollum du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, les jeunes vont tous admettre qu'ils avaient lu le Seigneur des Anneaux. Tous ces jeunes se connaissaient, ils étaient étaient tous quelque part des amis ou des acquaintances. Donc, il y a quand même un aspect un peu étrange dans cette histoire. Ouais. Bref, l'histoire va déborder cette petite ville de Dover et encore aujourd'hui, on parle de cette histoire du démon de Dover. On en a fait, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, des jouets, des figurines, des jeux vidéo. Quand on entre à Dover, je me rappelle, j'y suis allé encore il y a 2 ou 3 ans, je parlais avec les policiers qui étaient en poste et les policiers, on s'est mis à blaguer sur le démon de Dover. Donc, les policiers, malgré les années écoulées, ont continué de raconter cette histoire du démon de Dover. Et ce qui est assez surprenant, il y a quelques années, en 2007, dans un journal de Boston, Bill Bartlett, si les gens sont à la maison puis ils veulent faire une recherche sur Google, si vous tapez le nom de William Bartlett, il est devenu aujourd'hui un peintre de renommée internationale. Ouais. Il fait dans le hyper réaliste. Écoute, tu regardes ses peintures, tu as l'impression que ce sont littéralement des photographies. C'est un homme qui gagne très bien sa vie. Il est dans le domaine de la peinture excessivement respecté. Il ne parle jamais de cette rencontre, mais quand même, à l'époque, il avait fait un dessin de la créature qui était particulièrement réaliste et qui lui avait quand même valu les honneurs. Ses amis le surnommaient l'artiste. Et il y a quelques années, donc je te mentionnais, en 2007, il a accepté pour une rare fois de reparler de cet événement et il a maintenu que tout ça s'était bel et bien passé tel qu'il l'avait vu à l'époque. Donc, Bartlett, on parle ici d'un homme âgé d'une 40aine d'années à cette époque, en 2007. Et lorsque les journalistes lui ont demandé, ben oui, parlez-nous de cette histoire. Et Bartlett disait, je n'ai rien d'autre à dire que ce que j'ai dit quand j'avais 17 ans. J'ai tourné, j'ai vu cette créature sur le muret de pierre. Ce n'était pas une fraude, ce n'était pas une arnaque. Et il continue de maintenir que l'histoire était tout à fait authentique.
Les Dropas. Là, on recule un peu dans le temps.
Ah oui, là, écoute, ça, on est dans une histoire qui est quand même tout à fait incroyable. Et le mot-clé ici, Mathieu, c'est de se rappeler que 1960. Donc, l'affaire apparaît en 1960. Donc, on a des... C'est une époque, c'est un peu l'âge d'or des soucoupes volantes, des histoires des anciens astronautes, hein, ces histoires de les extraterrestres auraient aidé les Égyptiens à construire les pyramides, auraient transporté les statues du départ. Donc, c'est un moment très effervescent autour de ça. Donc, on est au début des années 60. Et des premiers ici apparaissent à ce moment-là. Une légende s'inscrit. Quelque part, en avril 1938, ou 39, ou 37, on n'est plus sûr de l'année, mais quelque part à cette époque-là, au mois d'avril, on raconte qu'une équipe d'archéologues menée par un scientifique chinois aurait trouvé quelque part dans les montagnes à la frontière du Tibet et de la Chine un réseau souterrain de cavernes et de tunnels. Les murs étaient littéralement vitrifiés, ce qui semble dire que les cavernes avaient été faites de façon artificielle en utilisant de l'équipement ultra sophistiqué. Et l'on raconte que quelque part dans ce réseau, dans ce labyrinthe souterrain, les scientifiques chinois auraient découvert un ensemble petit, une espèce de nécropole qui contenait plusieurs tombes. Et dans ces tombes, des petits êtres avec le crâne hypertrophié, des membres chétifs, donc des petits squelettes. Et tellement étrange que les archéologues auraient conclu, peut-être s'agissait-il de singes ou de quelque chose comme ça, parce que c'était beaucoup plus petit que des êtres humains.
Ouais.
Mais dans cette caverne, il y avait sur les murs des espèces de dessins qui semblaient rappeler des espèces de cartes cosmiques avec des étoiles reliées les unes aux autres par des traits continus. Il y avait également des dessins de créatures un peu comme on se rappelle, comme on imagine un peu les petits gris de la culture des ovnis. Ouais. Donc il y avait tout ça et on a trouvé des disques qui ressemblaient, en fait ils avaient à peu près 30 cm de diamètre, ils avaient un trou en leur centre et seulement 2 sillons qui partaient sur le pourtour du disque et allaient vers le centre. Ça nous rappelle nos micro-sillons de vinyle.
Ça ressemble à ça, oui.
Donc, ils vont ramener... Et là, on ne sait pas trop. La légende dit il y en avait un. D'autres parlent de presque 100 de ces disques. Ils vont être ramenés en Chine, seront conservés quelques temps dans un musée à Pékin et ils vont disparaître. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte en 1960. Mais l'histoire va se peaufiner. Voilà qu'en 1978, paraît un livre écrit par un certain David Gammon. En fait, il n'utilise pas ce nom-là, il utilise un nom de plume. Et il raconte. Et le livre s'intitule « Sun God in Exile »,« Les dieux du soleil en exil ». Et dans cet ouvrage, l'auteur raconte, en fait, il se définit comme une sorte de secrétaire d'un archéologue qui aurait... participé à une expédition en 1947, donc 10 ans après la découverte des Chinois, aurait participé à une expédition qui aurait permis de retrouver les fameuses cavernes, les disques, les dessins. Et là, il arrive à la conclusion dans cet ouvrage qu'il existe une petite communauté qui vit dans les montagnes du
les
Tibet.
Les intraterrestres.
Les Dropas. Les Dropas qui seraient, oui, c'est ça. Les Dropas qui, il y a 12 000 ans, leur civilisation aurait été en contact avec des intraterrestres. Hein? En fait, des extraterrestres qui auraient échoué sur Terre et qui auraient appris à vivre de manière dans des cavernes. Hein? Donc, et ces créatures se seraient donc métissées avec un groupe local qui aurait donné naissance aux Dropas, qui seraient finalement les héritiers de ce mixage entre les extraterrestres et les humains. Tout ça pour te dire, Mathieu, là, je te vois la salive à la bouche, les sourcils froncés. C'est une fraude.
OK.
Ne me dis pas. Ah oui, je vois ton étonnement. En fait, tout ça est un canular qui est né dans les années 60 dans de la littérature un peu bon marché. Et ce David Gammon, qui a publié The Sun God in Exile, a raconté à maintes reprises, dit, j'ai inventé cette histoire-là parce qu'à l'époque, les gens acceptaient n'importe quoi. Ouais. C'est le plus beau canular que j'ai fait. Bon, il s'est toujours félicité de ça. Et ce qui est surprenant, c'est que malgré les aveux des gens qui ont fabriqué le canular, malgré ces aveux-là, l'histoire revient périodiquement et elle est reprise. On n'arrive pas à tuer une bonne histoire. Je me rappelle, dans le milieu du paranormal, il y a une autre histoire un peu du même genre, l'expérience de Philadelphie, dont l'auteur a lui-même reconnu que c'était une invention. Il n'y avait rien de vrai là-dedans. Et pourtant, c'est un peu comme si on mettait de côté les aveux pour continuer d'entretenir cet incroyable mythe.
Ton histoire des Dropas, là, pourquoi je réagissais ainsi et que vous ne m'entendiez pas parler, c'est que je l'ai entendu de gens qui avaient adapté ça ici au Québec. C'est la même histoire.
Oui, voilà. Donc, c'est une histoire qui ne meurt pas, qui est simplement resservie à d'autres sources.
Et qui change de région.
Qui change de région, mais c'est toujours un peu la même histoire. Des artefacts extraterrestres, des cavernes, des intraterrestres.
Ouais, ouais, ouais. Des intraterrestres, on aurait dit à certains des touristes.
Et pour les extraterrestres, eux, on sait, ils ont déménagé de Valcourt, là, de Maricourt.
Oui, voilà, mais la soucoupe est à vendre.
Exactement. Hey, en terminant, avant de se laisser rapidement, parce que cette semaine, on a parlé beaucoup, on commémorait d'ailleurs l'assassinat de Martin Luther King.
Oui, écoute, on écoute cette célèbre phrase de Martin Luther King. I have a dream today. When we allow freedom ring, we'll be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Donc, Martin Luther King, je te rappelle, prix Nobel de la paix en 1964. C'était un individu qui a beaucoup travaillé pour la reconnaissance des droits des Noirs aux États-Unis. En fait, il appelait souvent à la désobéissance civile, mais sans violence. Ça a été un peu sa carte de visite. Et il est assassiné le 4 avril 1968. Il est, à ce moment-là, il se trouve au motel Lauren à Memphis, au Tennessee. Il est 18h01 lorsqu'un coup de feu l'atteint à la gorge. Il s'écroule. Il est sur le balcon du premier étage. Il se prépare à parler à des gens qui sont dans la cour lorsque la balle l'atteint à la gorge. Il s'écroule et une heure après, on constate malheureusement son décès à l'hôpital. Souvent les gens, lorsque je parle, ont souvent l'impression que Christian Page dit qu'il n'y a jamais de complot. C'est pas vrai. Il y a certains complots qui n'en sont pas, mais il y a d'autres complots qui, peut-être, à tout le moins, ont des assises. Dans l'affaire de Martin Luther King, c'est difficile à trancher. Parce qu'ici, si on est en présence d'un assassin commandé, on est en présence de l'assassin le plus goofy qu'on peut trouver dans l'histoire. Hein?
James Earl Ray.
C'est James Earl Ray. En fait, James Earl Ray est un homme d'une quarantaine d'années. Au moment où il va, parce qu'on s'entend bien, on parle ici de l'assassin présumé de Martin Luther King, c'est un type qui est déjà en cavale depuis une année. Il est venu d'ailleurs à Montréal. Il a trafiqué avec des gens. Et au moment où il commet son crime, il a loué un appartement au nom de John Willard. On va trouver d'ailleurs ses empreintes un peu partout dans la pièce. On va trouver son arme à feu. Il va abandonner sa Ford Mustang un peu plus loin où là encore on va trouver ses empreintes dessus. Il va être arrêté un mois plus tard à l'aéroport Heathrow en Angleterre, ramené aux États-Unis. Il va plaider coupable à des accusations de meurtre, mais va se tracté ensuite, ce qui lui permet d'un procès, mais ça lui donne une condamnation à perpétuité, mais il échappe à la chaise électrique. Et jusqu'à sa mort, James Earl Ray va maintenir qu'il n'est pas l'homme qui a assassiné Martin Luther King. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire de cet homme-là, on comprend mal comment un individu comme lui aurait pu être aussi laxiste un peu partout pour réussir à abattre un homme aussi important que Martin Luther King. En fait, son discours, est-ce qu'on oscille entre le complot et l'assassin opportuniste, ouais, qui a réussi son coup. Mais c'est vrai que jusqu'à sa mort, il va maintenir qu'il était innocent et à un point tel qu'il a même convaincu la famille de Martin Luther King qu'il n'avait rien à voir dans l'assassinat du pasteur.
Parce qu'il y a des similitudes avec un autre événement 5 ans auparavant, l'histoire de Lee Harvey Oswald et,
voilà,
de JFK.
Donc, un individu que l'on a l'impression sorti de nulle part, qu'on ne connaît pas de crime violent,
exact,
exactement comme dans le cas de James Earl Ray, qui va commettre toute une série d'erreurs. Comme si on avait presque des flèches et des néons qui l'indiquaient. Ouais. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est vraiment très mystérieux. Et je comprends que 50 ans après, la mort de Martin Luther King soit encore entourée d'un aura, peut-être un complot.
Christian Page, je rappelle, tu es en conférence le 21, c'est ça?
Voilà, 21 avril à Montréal.
Oui. Au Centre Roussin.
Au Centre Roussin, on va parler des grandes énigmes de l'histoire, tome 2. Je vais parler notamment de la comtesse de sang et de l'occultisme nazi. Donc, toutes les informations sur mon site web, le www.christianpage.ca.
Merci, à la semaine prochaine.
Absolument.
Salut bien. Dans un instant, Fabrice de Pierrebourg avec nous. On va parler de la chute de Saddam Hussein, mais également là, une attaque qui serait survenue ce matin, une attaque chimique potentiellement. On se demande si c'est pas le régime Al-Assad qui est derrière tout cela en Syrie. On y revient.